Bien, le thème de la matinée, comme vous le savez, prévention, prédiction, dépistage, la question éthique. Au fond, ce titre-là reprend un débat qu'on a déjà eu depuis deux jours, et que dans le terme classique, on peut nommer par exemple comme la question de la psychanalyse en intention ou de la psychanalyse en extension. On peut remarquer d'ailleurs que Dolto avait ouvert une large brèche dans ce registre en acceptant toutes les interventions publiques qu'on lui connaît. Et même en insistant particulièrement sur le mot de prévention qui était un des mots de prédilection de Dolto. Et c'est là que la question se complique. De toute évidence, nous ne pouvons pas exporter la méthode psychanalytique, la technique, à l'extérieur de nos cabinets. Ce dont nous sommes à peu près sûrs, et c'est ce qu'a fait Dolto, nous pouvons exporter toute la conceptualisation psychanalytique étant soutenue par un de ses piliers principaux qui est effectivement l'éthique. Je crois malgré tout qu'il existe un grand malentendu entre les psychanalystes et la demande qui leur est faite dans le socius. On nous demande une généralisation qui risque bien souvent de nous amener du côté de la sociologie plus que de la psychanalyse, et nous avons à être extrêmement attentifs à toujours rester psychanalystes. Alors, dans les deux sens que je disais, théorisation, éthique. Petite anecdote qui va dans ce sens-là. J'ai reçu il y a quelques jours à mon cabinet un coup de téléphone de quelqu'un qui était à plus de 1000 km de l'endroit où je travaille et qui me dit, en m'exposant le symptôme de son enfant, « Vous avez la clé ». Alors j'étais drôlement embêté parce que je voulais répondre gentiment, enfin, et puis c'est très important quand des gens nous téléphonent. Et j'ai un petit peu jonglé pour ne pas répondre, et en réfléchissant à cette demande-là, je me suis dit « Oui, nous avons une clé, c'est l'éthique ». Mais c'était drôlement difficile à formuler comme ça. Et dernière réflexion, depuis quelques années, j'avais un peu renoncé à une partie des expressions doltoïennes, nommément la cause des enfants. Et en voyant l'efflorescence des nouvelles techniques qui promettent comme ça des guérisons rapides, aisées, je me suis dit, il faut changer de combat et en venir maintenant à la cause de la psychanalyse. Après réflexion, je me suis rendu compte que je disais une bêtise. C'est un pléonasme, la cause des enfants et la cause de la psychanalyse. Maintenant, je vais passer la parole à Gérard Guiraud.
Il s'agit d'essayer de vous parler de la place de l'éthique dans l'œuvre de Françoise Dolto. On ne s'en est pas toujours suffisamment avisé, mais c'est pourtant d'emblée et de façon tout à fait explicite que le propos de Françoise Dolto a manifesté cette inflexion, cette sensibilité qu'il nous faut dire éthique, y compris dès les tout premiers écrits à orientation grand public de l'immédiate après-guerre, qu'on aurait tort de réduire à leur contenu apparemment éducatif. Quand l'éducatif, chez Françoise Dolto, jamais ne s'y réduit strictement, c'est ce que l'on a totalement méconnu dans de récents débats oiseux, mais renvoie précisément à un arrière-plan éthique que fonde, comme on va voir, une conception spécifique de la psychanalyse. Ce fil de l'éthique qui apparaît ainsi très tôt nous n'allons cesser d'en retrouver la persistance et l'insistance, pour autant que, loin d'être un aspect latéral ou second dans l'œuvre de Françoise Dolto, il s'avère en constituer la trame et en soutenir l'inspiration. Aussi bien va-t-on pouvoir manifester, j'anticipe, que la psychanalyse, telle que Françoise Dolto l'exerce et la conçoit et la promeut, se fonde d'une éthique, voire s'articule elle-même au titre d'une pratique et d'une pensée de l'éthique. Encore convient-il de mesurer l'usage particulier qu'elle en produit. Disons à ce propos que l'une des modalités premières dont on peut considérer l'éthique en jeu chez Françoise Dolto tient à ce mouvement constitutif de sa pensée qui consiste à dégager, dans la trajectoire infantile dont elle rend compte, la dynamique ascensionnelle d'un devenir. C'est sa façon à elle de reprendre, pour en souligner l'incidence, la fameuse formulation freudienne sur le Werden, du soll ich werden, du devenir je, c'est-à-dire afin de manifester chez l'enfant l'advenu d'un moi qui dit je, ce qu'elle traduit elle-même selon cette modalité singulière de l'allant devenant. À chaque tournant de l'exposé de sa pensée, Françoise Dolto revient ainsi, pour le souligner et le marteler, sur la réaffirmation principielle de ce qui a à s'orienter dans le sens d'une dynamique d'assomption subjective. C'est ce qui va prendre forme au stade le plus abouti de sa théorisation, comme constituant la dimension proprement éthique de ce qu'elle formalise au titre de l'image inconsciente du corps, laquelle correspond, dans son déploiement même, à l'inscription de l'éthique dans ce qui assure ainsi la symbolisation subjective. Et cette orientation apparaît ici dès le commencement, c'est le cas de le dire, si l'on songe à cette façon de faire état d'une éthique du fœtus, elle nous le rappelait elle-même hier, ça ne s'invente pas, que Françoise Dolto croit même pouvoir qualifier de vampirique, sur un mode vampire, s'agissant pour l'être en puissance de pomper le sang qu'il requiert pour, à chaque instant, étoffer la chair nécessaire à la vie. On ne saurait mieux dire à quel point cela inscrit l'éthique dans les radicelles même de l'être, aux confins primordiaux de l'exister. L'éthique est ainsi ce qui vient désigner l'essence même de ce mouvement, de cette dynamique que Françoise Dolto s'emploie à dégager en théorie, comme elle s'efforce de la promouvoir en pratique, et que l'on pourrait appeler aussi bien le mouvement de la vie, si du moins l'on entend celle-ci, par-delà ce que les seules données biologiques prétendent en formaliser, mais à la hauteur de la dimension symbolique qu'elle contient et emporte intrinsèquement chez l'humain. C'est dire que l'éthique est immanente au déploiement historicisé de l'image inconsciente du corps. Pas moyen de comprendre le sens et la portée de cette théorisation de l'image du corps si l'on y méconnaît cette dimension et que c'est là ce qui la fonde et en assure l'ordonnance et la mise en œuvre concrète. Françoise Dolto prend d'ailleurs soin de souligner la présence effective de cette dimension éthique en chacune des phases significatives de la diachronie infantile dont elle rend compte. On ne saurait donc être surpris de la voir décliner successivement la mise en avant d'une éthique orale, d'une éthique anale, etc. Ce sont des termes qui témoignent, d'une part, de comment chaque phase vaut par ce qui doit s'y accomplir à cet égard, et d'autre part, de comment se met en perspective cette sorte de dépassement ascensionnel à valeur éthique d'une phase à la suivante. Encore faut-il ne pas se laisser entraîner précipitamment à voir dans la successivité ainsi décrite ce qui correspondrait à la mise en place d'une normativisation réglée. Et ceci me fournit une première occasion de mettre en évidence ce sur quoi on ne saurait trop insister, à savoir qu'on n'est d'aucune manière ici, avec Françoise Dolto, dans un registre de normalisation morale, ce pourquoi elle fait d'ailleurs elle-même choix de ce terme d'éthique, en nous précisant si besoin le sens et la portée de cette précieuse distinction. Je la cite. « L'éthique n'est pas la morale. La morale est un code de comportement. L'éthique, elle, soutient une intention dans sa visée. Elle est le désir et le sens qui en découle. L'éthique est affaire de sujet. La morale est affaire de moi. » Fin de citation. Non certes de normativation donc, ni par conséquent de ce qui serait sinon passible de jugement moral, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais cependant de la mise en œuvre d'un ordonnancement subjectif, de la mise en place ordonnée d'un axe éthique, au regard duquel pourront s'apprécier quant au sujet ce que l'on n'appellera donc pas des déviations, mais plutôt ce que Françoise Dolto désigne d'un terme ici très précieux de son vocabulaire, à savoir d'un gauchissement. Terme qui permet de rendre compte de tout ce qui peut survenir au plan clinique, par mise en jeu notamment de signifiance ou d'identification aberrante chez l'enfant. Celui qui ne sait pas qui il est, qui s'identifie à tel animal ou à une machine à coudre ou à un enfant mort, etc. Et dont vient rendre compte ce qu'il est possible de désigner en effet comme gauchissement, dévoiement, torsion, sinon perversion de l'axialité d'un devenir conçu comme éthique, rapporté à l'éthique. Éthique d'un devenir et non pas, on le comprend mieux, morale d'un comportement. Façon de ne pas perdre de vue qu'on est et qu'on se tient dans le champ de la psychanalyse. Une autre façon d'accentuer ce mouvement de pensée et de confirmer tout ce dimensionnement essentiellement éthique de la conceptualisation de l'image du corps impliquerait de se référer bien sûr à ce qui en agence le dispositif au titre de ce qui y opère comme castration successive, dite, comme vous savez, symboligène par Françoise Dolto. Inutile d'en souligner le fondement éthique, là où l'opérateur castration ne correspond à rien d'autre pour le sujet qu'à l'inscription de la loi de et dans la parole. Et ce qui empêche de réduire la castration à la sanction d'une limitation éducative si proche qu'elle en paraisse, tient au sens promotionnant et humanisant qui s'y trouve accordé. Elle est un plus offert à l'accomplissement du sujet, à quoi répond d'ailleurs le fait que Françoise Dolto, pas par hasard, en fasse l'enjeu d'un don, car il s'agit en effet de donner la castration, ce qui en indique assez la dimension proprement libératoire. Elle n'est pas tant l'imposition d'une obligation que la donation d'un accroissement pour l'être au monde. Voyez en tout cas comment tout ceci vient confirmer la prévalence de l'éthique comme dimension organisatrice et inspiratrice de la mise en œuvre de l'image inconsciente du corps. Aussi bien serait-il possible de lire le livre qui en rend compte, l'image inconsciente du corps, comme un traité d'éthique, ainsi qu'en fait foi d'ailleurs la prévalence qui s'y trouve précisément accordée au thème de la castration. Mais cette éthique, autour de quoi tourne et gravite la pensée doltoïenne, parce qu'elle en est le pivot organisateur, il nous faut en venir à enfin lui accorder l'appellation spécifique qu'elle y reçoit, et qui mérite en effet d'être désignée pour ce qu'elle est, telle que va la soutenir de bout en bout Françoise Dolto, une éthique du désir. On ne peut pas ne pas relever d'abord ce que cette formulation d'éthique du désir, en tant que c'est là pourtant ce que je tiens pour être un thème organisateur de toute cette pensée, ce que cette formulation peut avoir de passablement déroutant, a seulement rappelé que le désir, après tout, n'est pas forcément tenu en principe pour s'aligner sur la conformité aux valeurs, quelles qu'elles soient, mais plutôt comme ce qui serait de nature à en déranger l'ordonnancement. C'est pourtant bien à la mesure de ce qu'il peut y avoir là de paradoxal qu'il va falloir nous tenir avec Françoise Dolto. Elle procède en effet dans une direction qui consiste à mettre en avant le désir comme le support même de ce qu'il s'agit, dans et par la psychanalyse, de reconnaître comme valeur éthique. Et donc de poser que c'est cela dont la psychanalyse assure ou assume l'avancée, de reconnaître une éthique du désir comme telle. Entendons bien qu'il ne s'agit pas, là est le mouvement de pensée et d'action analytique capitale, qu'il ne s'agit pas de ce qui viendrait comme secondairement contraindre le mouvement du désir en y apportant la codification requise destinée à en limiter le déploiement, en restreindre l'excès, en réduire le débordement transgressif. À nouveau, on n'est pas dans un registre moral. On touche ici à quelque chose de beaucoup plus radical et qui constitue en ce sens le forçage sur lequel pourtant Françoise Dolto va venir s'appuyer. Car ce qui se trouve ainsi affirmé et soutenu et pratiqué par elle consiste à soutenir à la lettre qu'il y a une éthique du désir, que le désir est en lui-même porteur et constitutif d'une éthique. Mais d'où est-ce qu'elle sort ça, Françoise Dolto, et comment est-ce qu'elle le soutient ? Essentiellement d'une position d'analyste, à partir de ce qui pourrait sembler n'être que le rappel d'un truisme, à savoir que le grand œuvre qu'accomplit au mieux l'analyse, ce n'est rien d'autre en effet que dégager pour un sujet les voies du désir, les voies de son désir, comme on dit. C'est ce désir, qu'on pourrait dire transcendantal, que l'analyste se trouve à voir, à promouvoir et à soutenir, et qui pourra le conduire à adresser, par exemple, à l'enfant la rude formulation d'un « tu as désiré naître », par quoi l'éthique du sujet qu'on y entend se fonde ici de ce qui est énonciation et ne saurait valoir en dehors de ce cadre énonciatif du dialogue. « Tu as désiré naître », cela veut dire et te dire que tu es comptable de ce que tu es comme vivant et qu'il te revient d'assumer ce que cela t'impose et t'offre à la mesure de ta dignité d'humain. Observons qu'il y a là, dans une telle position, quelque chose d'une rigueur ou d'une vigueur extrême. On n'est pas ici dans la facilité, ni dans la douceur, ni dans les bons sentiments ou l'amour des petits-enfants. On est à la mesure de ce que l'analyse impose comme exigence impérieuse. Car c'est aussi cela, Françoise Dolto, une façon de ne pas déroger à ce que dessine cette perspective éthique ordonnée par l'axialité intangible du désir. En même temps, cela donne à celui-ci, cela peut lui conférer le caractère, sinon d'un idéal, mais je préfère dire d'une idéalité, pour désigner ce qui polarise ainsi l'exercice analytique dans ses tenants et aboutissants. Encore convient-il de percevoir que cette axialité orientatrice du désir est aussi le moyen de faire apparaître à contrario le vaste ensemble de ce qui fait que nous n'y pouvons jamais atteindre pleinement, ce qui nous met fatalement en reste quant à l'éthique qui s'en trouvait requise. C'est à la fois ce qui confirme cet axe du désir dans son statut d'idéalité éthique, mais au regard de ce que cela révèle de l'ampleur de nos empêchements d'y satisfaire. Et Françoise Dolto va être du coup aussi diserte sur la mise en évidence de cette axialité formelle du désir que sur ce que cela manifeste de nos insuffisances d'ordre divers à pouvoir en soutenir le réquisite. Au jeu du désir, en effet, se révèle la multiplicité des pièges qui nous retiennent de nous y tenir à la mesure de ce que cela exigerait, et notamment par tout ce qui nous fait nous soumettre au règne des objets partiels, ou par tout ce qui nous fait céder au mirage du narcissisme si l'axe du désir est fondateur d'une éthique du sujet à laquelle ne peuvent que déroger les prétentions mesquines où nous piège la suffisance du moi. Et l'on pourrait encore ajouter à cette liste tout ce que Françoise Dolto en inventorie au titre de la possessivité, le ressassement du passé, y compris celui que peut susciter la complaisance dans l'analyse, la jalousie, le circuit court de la redevabilité et de la rationalité culpabilisatrice, etc., tout ce qui nous retient d'atteindre au circuit long dont l'éthique du désir continue du moins de nous indiquer la perspective. Il y a ainsi chez Françoise Dolto, là est le ressort de cette éthique, la sorte d'appel à toujours aller au-delà, la mise en œuvre d'un mouvement qui toujours doit relancer cette mise en marche de la dynamique du désir sur le mode d'un quitus qui puisse transcender tous les pièges auxquels nous ne manquons de céder. C'en est même au point que l'on pourrait trouver chez elle de quoi nourrir l'idée que tout lien aux objets, à l'objet, a quelque chose d'aliénant, dont il s'agit de produire le dépassement qui toujours doit assurer par-delà l'advenue d'une plus juste et exigeante altérité. Françoise Dolto n'est pas tout à fait seule dans ce qu'elle affirme ainsi, pose et soutient. Ou plutôt si, elle l'est seule, du moins dans l'unicité et la force de sa singularité, qui doit tout à sa capacité de tenir fermement une position d'analyste. Après tout, c'est peut-être pas si fréquent, si nombreux qu'ils soient les analystes. Mais je voulais dire qu'elle avait quand même ses références, dont je souhaiterais faire état si peu que ce soit avant de conclure. Je vous éviterai, faute de temps, celle qui renvoie à Lacan, très inévitablement présent dans tout ce propos, à commencer bien sûr par cette référence au désir dont il fut l'inspirateur. Il me plaît de considérer que sur ce point, Françoise Dolto est celle qui rebondit à sa manière à elle sur sa recherche à lui concernant l'éthique de la psychanalyse, mais que loin des hésitations et des incertitudes qu'il y fait valoir, elle passe outre et va droit au but. Et ce serait sûrement trop rapide de dire que c'est parce qu'elle avait la foi, quand c'est plutôt d'aller droit au but qui lui confère cette foi et l'autorise à cet enthousiasme qui est le sien. Ce qui est sûr, puisque je parlais des références, c'est qu'il se peut que les analystes, ces êtres frêles dont Freud énumérait déjà toutes les fragilités, ne lui aient pas forcément paru suffire, si suffisant soit-il parfois, à asseoir ce qu'il s'agissait pour elle de faire valoir au niveau du sujet comme éthique du désir. Et on ne peut pas ne pas rappeler qu'à ce niveau-là, elle avait su trouver ailleurs son maître. Que cela plaise ou non, celui qui lui permet d'étayer ce qu'elle a à cet égard à soutenir de sa position d'analyste, c'est le dénommé Jésus. C'est lui qu'elle considère à la hauteur de ce qu'il lui permet de fonder en tant qu'elle reconnaît en lui le maître du désir. Gardez-vous de vous précipiter à considérer que c'est par là qu'elle nous ramène à des considérations catéchétiques subreptices. Au contraire, c'est ce par quoi la pertinence de son discours trouve à se renforcer par l'édifiant exemple de l'action christique. Je ne reviens pas sur ce que je crois avoir déjà beaucoup développé par ailleurs, à savoir que loin de faire du psychanalyste un curé, la démarche que constitue cette reprise de l'Évangile consiste bien davantage à faire de Jésus comme le premier psychanalyste, celui qui enseigne par la parole, la parabole, comment délivrer le désir de ceux qui se trouvent enlisés dans la voie des complaisances moïques de la névrose, en les ressuscitant pour les remettre en vérité sur le chemin du désir. Quitte à pouvoir en surprendre certains, c'est même paradoxalement par cette voie de l'exemple christique que Françoise Dolto parachève ce qui la maintient dans l'éthique à l'écart de tout prêchi-prêcha moralisant qui en appellerait au bon sentiment et aux vertus de la morale bien-pensante. Il n'est que voir comment Jésus s'en prend lui-même aux vertueux. Car avec lui, c'est ce même discours déculpabilisant, fondé sur l'éthique du désir, dont il s'agit pour elle de dessiner la voie. Voilà, je vais m'arrêter là, non sans mesurer ce qu'il peut y avoir d'inconséquent à vous présenter une telle perspective d'ensemble en 20 minutes, quand cela exigerait bien sûr tellement davantage. Et pour autant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas non plus de rendre compte d'une œuvre, ni de faire la glose de Françoise Dolto, mais d'atteindre par-delà ce qu'elle-même a tenté d'en soutenir en son être, à cette orientation éthique qu'elle s'est employée à dégager comme au cœur même de ce qu'apportait la psychanalyse. Et en effet, à quoi bon la psychanalyse si elle ne transmet pas, si peu que ce soit, de quoi nous conduire à renouveler la pensée de l'éthique ? Et pour autant que sa force à la psychanalyse serait justement, ainsi que le soutient une Françoise Dolto, de ne pas se contenter des facilités simplificatrices de la morale, mais d'en appeler, par-delà le bien et le mal, à l'exigence vécue d'une éthique. Je vous remercie.